20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Si on a 20 minutes avant la fin du monde, est-ce que ce n'est pas le moment d'aller le voir justement, le monde? De s'emplir les yeux de pyramides, de fleuves sinueux, de paysages légendaires. Nourri à la pub, dopé aux images, on se dit que la liste est longue et la vie très courte. Allez, guide de voyage, forum, Google Images, je pianote, cavale, de notations en témoignage. Les avions nous téléportent et laissent dans le ciel du CO2 qui sera encore là dans une centaine d'années. Nous rêvons d'un globe, d'un monde plat, sans limites, sans frontières, mais nous construisons la serre qui nous réchauffe. Le monde ne serait-il pas plus tranquille si on arrêtait de le poursuivre avec nos envies de voyage? Faut-il vraiment voir les éléphants de près et tout ce qui est beau et loin pour aimer ce qui existe? Que cherchons-nous tout là-bas qu'il n'y aurait pas ici? Salut Sarah.
Salut Antoine.
Salut Sonia.
Salut Antoine.
Il se passe quoi la première fois qu'on décolle du sol de la planète? La première fois que vous avez pris l'avion?
Alors moi j'étais petite, hein, je pense, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages avec mes parents et donc j'adore voyager je pense que c'était surtout de l'excitation à l'époque, maintenant plus de peur maintenant que quand j'étais petite, mais une sensation quand même de liberté et d'accessibilité du monde, de se dire que on part le matin, on est à Paris et qu'on atterrit le soir, on est à New York, on est en Guadeloupe, on est à l'autre bout du monde. Il y a quelque chose de complètement fascinant et excitant quand même.
Ah, ça, c'est le vertige des transports. Et toi, Sonia?
Bah, moi, je vais complètement casser l'ambiance dès le début parce que j'ai horreur de prendre l'avion. D'abord, en fait, je me souviens absolument pas de la première fois où j'ai pris l'avion. Mais la dernière fois, j'ai vomi, tout simplement. Donc, c'était pas super cool. Mais sinon, je trouve ça inconfortable. On est serré et ça sent pas bon. La nourriture est dégueu. Donc, non, franchement, j'aime pas prendre l'avion.
Alors, on prend l'avion parce qu'on voyage, mais enfin, il y a beaucoup d'autres raisons que le voyage qui ont conduit à quitter son pays quand on regarde ce qui s'est passé dans les siècles passés. Alors l'envie de Farniente, le city break, le fameux city break, hein, attention, hein, c'est-à-dire le fait de partir pour seulement 48 heures quelque part, c'est une raison. Il y en a d'autres, on les a un petit peu...
Elles sont souvent moins sympas, ouais, en général. Hein,
c'est la city cassée plus que le city break.
Oui, exactement. Ça va être les guerres, les invasions, les conquêtes, fuir la misère. Et puis, il y a bien sûr aussi, comme on parle quand même d'écologie dans ce podcast, on fuit aussi à cause de facteurs environnementaux. Et ça, quand même, depuis toujours, hein, en fait.
Effectivement, c'est la tempête, sécheresse, montée des eaux, et ça peut faire qu'empirer. L'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques en 2050, si rien n'est fait au moins pour essayer d'atténuer les conséquences des dérèglements climatiques. Aujourd'hui, c'est plutôt le tourisme qui nous fait réfléchir dans ce nouvel épisode de 20 minutes avant la fin du monde. Donc, il y a plusieurs types de tourisme. Hein. Alors, tourisme, le voyage initiatique, la performance sportive. Le voyage a longtemps été réservé pourtant à une élite.
Oui, donc effectivement, les Nicolas Bouvier qui partaient au bout du monde en Fiat Punto pour aller à Venise, à Istanbul et en Iran et au Pakistan, aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment. On prend l'avion, comme on l'a dit juste avant, c'est beaucoup plus facile. Et encore, on peut aussi voyager dans des grands bateaux qui nous mènent jusqu'au bout du monde, dans des voyages prépayés, préparés, où on choisit plus grand-chose sur place.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire que si à la fin du XVIIe siècle, le voyage était réservé à une élite, notamment britannique, qui partait faire le tour. On allait à Paris, on allait dans la campagne française, etc. Peu à peu, avec d'abord le développement du transport ferroviaire, puis le développement aérien, et puis bien sûr les congés payés, qui ont permis en fait à un moment à tout le monde de pouvoir prendre des vacances. Pas toujours très loin, hein, parce que congé payé, ça ne veut pas dire qu'on devient riche et qu'on peut partir très loin, mais ça permet de faire un break de temps en temps.
Merci, ouais. Léon Blum.
On a tous ces images, pour le coup, de voyages non polluants, de ces premières personnes qui partaient en congé payé à vélo sur les routes de France. Et là, c'était des bons voyages.
Et pourtant, aujourd'hui, un Français sur deux ne partent pas en vacances. Donc, les vacances ne signifient pas des voyages.
Oui, c'est intéressant. Je trouve cette différence en fait entre vacances et voyages. Vacances, ça veut dire que on ne travaille pas pendant un temps, mais voyager, on a tout de suite plutôt des idées d'ailleurs, de très loin, je trouve, de découverte aussi. Finalement, il y a quelque chose quand même que je trouve moi de mon côté positif dans le voyage, c'est aller à la découverte aussi d'autres cultures, de pays étrangers, etc., d'autres cuisines.
Ouais, moi, la question que je me pose, en réalité, c'est si les gens aiment vraiment partir en voyage. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un vrai effet de mode à partir en vacances, à prendre l'avion, à suivre ces diktats presque publicitaires qu'on voit dans le métro. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, il y a une pub où on voit une fille. Ce n'est même pas une pub pour une agence de voyage ou pour l'avion. C'est une pub de banque. Donc, on voit une jeune femme qui lève le pied pour enjamber quelque chose. Et le titre, la légende à côté, c'est « Je me réveille le matin à Milan ». Pour le travail, je vais aller danser à Londres jusqu'au bout de la nuit.
Non, mais ça, c'est. Enfin, moi, je trouve que ce genre de pub, c'est absolument horrible aujourd'hui. Enfin, toutes ces pubs, surtout pour des compagnies aériennes low cost, qui t'expliquent que chaque week-end, tu peux aller le faire dans une ville différente. Ça, c'est très dur. Et c'est vrai que, par exemple, même moi, je m'interroge. Moi, je me sens jamais aussi bien que quand je suis très loin de chez moi, sur une plage, avec une petite bière. Est-ce que c'est vraiment que moi ou est-ce que c'est une construction sociale parce qu'on m'a appris que le bonheur c'était ça alors que peut-être que le bonheur c'est juste prendre le RER pour aller à une heure de
ça,
Paris.
C'est la même bière à une heure, c'est la même bière à une heure
exactement.
De Paris.
À Paris plage simplement.
Et c'est vrai que derrière ça il y a le tourisme de masse dont on parle, c'est un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de mépris derrière cette expression. Alors effectivement je pense pas que j'aurais envie de m'inscrire sur une croisière géante pour faire le tour des îles de la Méditerranée. C'est pas forcément de ça dont j'ai envie pour me reposer. Mais j'ai quand même l'impression qu'on croit que le voyage serait chic, presque toléré, seulement si t'es le fait d'une minorité privilégiée ou de destinations rares et inexplorées. Et c'est facile de pointer un index accusateur sur ceux qui descendent d'un paquebot géant pour voir des îles lointaines. Mais en fait, on a construit une société où ce voyage-là en paquebot, bah, c'est l'aboutissement, par exemple, je sais pas, d'un couple de retraités qui va vouloir faire ce voyage après avoir pris leur retraite. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais en fait, voilà, on a construit le chemin qui mène à ce paquebot. Enfin, on a construit vraiment le pont et tous les ponts d'ailleurs qui y mènent, plutôt que de eux les accuser comme individus en disant mais en fait vous faites vraiment des voyages de naze.
Mais moi j'ai une question à vous poser, dites-nous vraiment la vérité parce qu'on veut toujours être original en voyage, mais vous vraiment quand vous voyagez vous prenez pas de guide, vous partez à l'aventure sans savoir ce que vous allez faire.
Le guide du routard, hein, franchement, mais c'est le ton c'est le ton du mec qui te tape sur l'épaule et qui te dit mais tu sais là-bas il y a une auberge sympa, tu devrais y aller, le patron il a un petit Dijon.
Ah, mais sauf qu'il y a 10 000 personnes qui ont le même guide que toi et tu te retrouves dans le même restaurant que tout le monde.
On a un peu ce fantasme de lieu, tu vois, de l'authenticité.
Bah oui, et après moi bien sûr que quand je pars avec un guide, après j'essaye de voir si je peux dénicher un peu des petits endroits un peu plus cachés, un peu plus secrets. Après c'est difficile de le faire tant que tu restes pas sur place, mais par contre moi là où je suis d'accord avec Antoine, c'est que bâcher le tourisme de masse, c'est absurde. Enfin, il y a aussi au-delà bon, des croisières, etc., où ça je vois pas trop l'intérêt pour moi. Par contre quand je vais dans un pays, ben forcément je vais dans les endroits où tout le monde va, parce que bah tu vas à Paris, tu vas voir la Tour Eiffel en fait, sinon enfin c'est quand même dommage.
Alors
90 c'est
millions de touristes en France l'année dernière. Alors ils sont pas tous en train de monter les escaliers de la Tour Eiffel, heureusement. Alors majoritairement des Britanniques, des Allemands, des Belges et des Luxembourgeois, des Italiens, Suisses et Espagnols.
Savez-vous que en Europe les touristes, ce qui les déçoit le plus, ce n'est pas le Manneken Pis de Bruxelles qui est pourtant très décevant parce qu'il est tout petit, c'est la Joconde apparemment.
Ah bah oui c'est tout petit aussi.
Et c'est tout petit aussi.
D'ailleurs c'est quoi vos plus grosses déceptions comme ça de voyage, de trucs que vous aviez vu sur Instagram, c'était magnifique, avec le point de vue qui va bien, la vision du haut du ciel, et qui en fait était hyper décevant.
C'est gênant d'aborder tout ça parce qu'on va devoir parler de nos destinations.
Dites-nous non,
mais moi, c'est le côté Machu Picchu. J'ai toujours eu un fantasme pour ce site que je trouvais absolument, absolument incroyable. Et quand je l'ai vu, la ville qui est construite en bas est quand même une ville qui est construite pour le tourisme, alors qui génère localement de l'activité économique. Hein. C'est bien beau de dire « moi j'ai un boulot à Paris, vous êtes sympa, j'aimerais qu'il n'y ait rien et juste un petit chemin de rando pour 10 personnes. » Mais enfin, en attendant, j'ai un emploi à Paris et les gens ont besoin de bosser aussi dans leur pays. Mais c'était cette foule, ces selfies, ces photos, un sentiment de... qu'il est difficile de regarder le lieu à travers d'abord toutes les photos qu'on a vues de lui avant, ouais, et tout ce qui s'y passe dessus pendant ce temps-là.
Moi, c'est une destination qui m'a... Enfin, à la fois où j'ai trouvé ça magnifique, mais où j'étais un peu déçue, c'était Luang Prabang, c'est au Laos. Parce qu'en fait, donc, il y a des temples absolument magnifiques. Par contre, en fait, tout le petit centre de la ville touristique, ouais, en fait, ce ne sont que des hôtels, que des auberges, que des restaurants pour touristes, en fait, il n'y a aucune vraie vie locale. Il faut sortir un peu. Après, si tu as le temps, tu peux sortir, aller te balader. Et là, tu trouves vraiment des marchés locaux, etc. Mais le centre en tant que tel, même, on est censé pouvoir se lever très tôt le matin, pouvoir les moines recevoir leurs offrandes. On dit que c'est très traditionnel.
Bah non, ils peuvent pas, ils sont en cuisine. Mais... Hein. Ça, c'est les restos locaux, c'est pour ça. Non, mais attends.
Mais voilà.
Donné,
Et ça, c'était une petite déception. Voilà.
Oui, en fait, le pire ennemi du touriste, c'est le touriste lui-même. Et on ne veut surtout pas être un touriste alors qu'on en est un.
Exactement.
Mais pourquoi alors on voyage, les raisons qui nous poussent à aller loin, c'est ça que je trouve un peu étonnant. C'est parfois des contraintes, les besoins de se changer les idées, de souffler, la pub. Moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est que en fait, on se dit toujours qu'on serait plus soi-même à l'étranger. Mais pourquoi ne pas se demander d'abord pourquoi on est parfois, on se sent parfois comme un étranger chez soi. C'est ce qui nous pousse pourtant à partir loin.
Moi, je vais répondre que pour moi. Je pense qu'en fait, la pression sociale et la pression du travail, je la ressens tellement fortement que en fait, ce n'est seulement qu'en partant loin que j'ai l'impression un peu de l'oublier. Ce qui est triste en soi, je pense.
Voilà. Ouais, moi, je pense que c'est du pur formatage et que c'est la pub qui nous... Enfin, c'est devenu le mensonge de notre siècle, comme le tabac à l'époque, qui nous a fait croire que fumer, ça nous rendrait cool. Et ben là, on voyage parce qu'on pense que ça va nous rendre cool sans se demander vraiment pourquoi. Mais voyage... bon, c'est mon humble avis.
Non, mais voyage cool, justement, on va voir, entendre plutôt, puisque c'est quand même le principe du podcast, un extrait d'un reportage passé cet hiver au JT de France 2 qui nous présentait des destinations au soleil en plein... une période d'hiver français, donc un petit saut au soleil.
C'est une île immaculée. Un paradis aux plages de sable blanc où l'empreinte des touristes n'existe pas. Une eau translucide. Une végétation sauvage que Disney veut transformer en complexe touristique. C'est ici, sur cette île appelée Eleuthera, que Disney veut amener ses croisières, des bateaux de 3500 places qui font déjà escale dans les Caraïbes.
Moi, j'ai vu le roi lion.
Le service, la sécurité, tout est super.
Ils s'occupent de tout, on ne se soucie de rien.
On est traités comme des princes.
À Eleuthera, sa nouvelle destination, Disney envisage de faire débarquer plus de 15 000 personnes par semaine. Un défi pour l'environnement. Un projet qui pourrait abîmer l'un des plus beaux sites des Caraïbes. La compagnie va construire ici, le long de ces rochers, un quai et un ponton pour accoster.
Ben, ça fait rêver pour les prochaines vacances. Hein.
Eh ben, j'ai profité du passage de l'extrait pour prendre des billets pour ma prochaine destination. Alors, c'est facile de critiquer les paquebots. Oui. On a compris que c'était plutôt, en tout cas, j'ai l'impression pour nous, l'imaginaire qui fait qu'on va sur ces paquebots que les gens qui bookent des trajets et des voyages avec. Alors, il y a quand même un gros client quand on parle de voyage. T'en parlais au début, Sarah, c'est l'avion. Alors là, on a, je veux dire, au bar de l'accusé, on a l'impression qu'il est dedans. Quoi.
Bah, c'est quand même l'avion, c'est 4,3 milliards de passagers en 2018 sur plus de 1300 compagnies aériennes à travers le monde. Alors quand je dis 84,3 milliards de passagers, c'est pas de personnes différentes. Hein. Une personne peut être passagère plusieurs fois, mais c'est quand même des chiffres énormes. Et surtout, ce qui fait un peu peur avec l'avion, c'est que tous les 15 ans, pour l'instant, le transport aérien voit son nombre de passagers doubler. Donc
ouais, c'est
absolument énorme.
C'est pas un chiffre qui est pris tout seul, il y a aussi une tendance, on prend de plus en plus l'avion.
Ouais, moi j'ai flippé vraiment quand j'ai voulu calculer mon bilan carbone. Alors je suis végétarienne, j'essaye de faire attention à pas trop consommer des trucs qui polluent, et là j'ai rajouté, tout allait bien, j'avais un super bilan carbone, et là tout à coup j'ai rajouté un voyage, même pas un énorme voyage, je crois que c'était un Paris-Naples, et là... Tout de suite, j'avais explosé les quotas. J'étais complètement au-delà de tout.
C'est une des choses avec l'avion, c'est que si on prend en fait le transport aérien, ça va être seulement 2% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Enfin, 2%, c'est quand même déjà pas mal. Mais on va dire que ça va être moins que la voiture, que les poids lourds. Mais en fait, à l'échelle individuelle, faire un aller-retour, alors là, c'était pas très loin, mais surtout long courrier, enfin, c'est même plus la peine de faire des efforts à côté tellement ton bilan carbone devient catastrophique, quoi.
Et en plus, ce qui est super flippant avec l'avion, au-delà de tout ça, c'est que c'est réservé à une certaine classe sociale. Donc
tout
en plus, on pollue pour les autres.
Alors, c'est la facture climatique des hyper riches. Ça veut dire que non content avec certaines activités économiques de saccager le monde pour gagner de la thune, ils le saccagent encore quand ils dépensent l'argent qu'ils ont gagné. Je voulais vous raconter un truc que j'ai vu que je trouve dingue. Donc, il y a un nouveau voyage qui commence proposé par une compagnie avec 50 membres de l'élite financière à bord d'un Boeing 757 privatisé. Donc, normalement, c'est un type d'avion qui peut transporter entre 200 et 289 passagers. Là, il y a de la place pour étendre ses jambes. Et le projet est simple, c'est un tour du monde en 24 jours. Départ de Seattle, attachez vos ceintures, this is the captain speaking. Kyoto, les Maldives, les gorilles dans les montagnes rwandaises, Copacabana. Je ne m'étends pas trop sur les destinations, enfin, façon de parler. Ce qui est dingue, c'est le prix, c'est ça qui me retient, 128 521 euros. C'est parce que j'ai fait une conversion juste avant le Brexit. pour une personne en couple, vous faites x2 si vous partez en amoureux ou plus, s'il s'agit d'un week-end entre potes.
Bah, et ce qui est marrant, c'est que tu as de l'autre côté de l'échelle Ryanair qui, lui, commence à proposer pour baisser ses coûts. Il y avait une époque où on parlait même de voyager debout ou des choses comme ça.
Je crois que c'était une blague. Hein.
j'espère. Mais c'est aussi pour ça que ça a augmenté. C'est que même si ça reste l'apanage de gens qui ont de l'argent de prendre l'avion, il y a quand même beaucoup de low cost qui se sont développés. Moi, il y a une époque, à 20 ans, j'ai fait un Paris-Madrid, je crois, pour 20 euros, quelque chose comme ça. Et puis, c'est aussi, il faut dire ce que c'est, ce qui est assez intéressant, c'est que les compagnies low cost, il y en a de plus en plus, alors qu'en fait, c'est un des secteurs les moins rentables parce qu'il y a une énorme concurrence et la volatilité des cours des matières premières, notamment du pétrole, fait que c'est une activité peu rentable. Et c'est pour ça que, on voit des compagnies qui se cassent la gueule, notamment Aigle Azur ou XL Airways, qui est ma petite anecdote personnelle.
Qu'est-ce qui t'est arrivé avec XL Airways?
J'ai pris un Paris-New York à 150 euros.
Ah, Sarah, c'est pas cher. Je savais.
Voilà, je l'avoue. Et XL Airways s'est pété la gueule. Et donc, j'ai perdu mon billet parce que, en fait, payer.
T'es rentré à la nage. Hein.
Ouais, exactement. Mais payer 150 euros pour un Paris-New York, c'est pas normal, en fait. Il faut le dire.
Oui, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des lois qui forceraient à payer le vrai coût des choses, qui prendraient en compte le coût carbone? Mais le problème, c'est que là, ça exclurait les plus pauvres et qui ne pourraient plus voyager. Donc, comment on fait ? Est-ce que vous avez déjà pensé à des lois comme ça qui pourraient réglementer les choses et faire en sorte que le voyage reste quand même accessible aux gens à qui ça plaît, en tout cas, et qu'il soit juste socialement ?
Moi, c'est toujours éventuellement un système de quotas, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire un certain nombre de kilomètres en avion par an ou par tous les 5 ans. Et une fois qu'on l'a passé, il faut s'arrêter.
Et de toute façon, il y a plein d'idées qui circulent, le fait que ça peut être un voyage annuel autorisé, etc. Après, ce qui va être difficile, c'est aussi la différence entre générations. C'est si des gens aujourd'hui qui ont 40 ou 50 ans portent des lois pour dire désormais il n'y aura plus qu'un long courrier tous les 5 ans qui est proposé.
Mais ceux qui n'ont jamais voyagé.
Ceux qui n'ont jamais voyagé. Donc c'est peut-être une question de notre rapport aussi au fait même de voyager. Les super riches dont je parle, leur gros argument pour prendre ce voyage, ce tour du monde express en 24 jours, c'est de gagner du temps. Ça, c'est vraiment l'obsession. Et ça a été calculé que s'ils faisaient le même voyage avec des compagnies aériennes traditionnelles, alors non seulement, vous doutez, ce serait beaucoup plus que 24 jours quand même, ce serait 10 jours de plus. Et surtout, ils passeraient, moi j'adore ce chiffre, ils passeraient 74 heures d'attente entre tous les vols. Donc, en fait, à la fin, tu as beaucoup plus vu les promos au duty-free que les gorilles du Rwanda.
Non, mais je pense que tu pointes quelque chose qui, pour moi, est intimement lié à la question écologique, c'est la question du temps. En fait, on vit dans une société où tout doit aller très vite, le plus vite possible, où on nous laisse de moins en moins de temps. Et donc, tout ce qui nous permet de gagner du temps nous plaît, mais en général, gagner du temps, c'est avoir une empreinte écologique plus forte. Donc, prendre l'avion plutôt que de prendre le train. Mais même sur la nourriture, c'est plus rapide d'aller acheter un plat tout fait que d'aller acheter des légumes de saison, de les couper, de se faire à manger. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème de rapport au temps dans nos sociétés aujourd'hui.
Oui, c'est marrant d'ailleurs, parce que finalement, les vacances, c'était pour nous donner une vacance au sens propre, un vide, une pause. Ouais. Et finalement, on cherche à la remplir, cette vacance, de tous les côtés, pour partir au bout du monde, faire 1000 activités, être la personne la plus fun et la plus cool, mettre des photos de soi sur Instagram avec toutes les vues qu'on a vues par ailleurs.
Alors, est-ce que les réseaux sociaux, pour vous, Instagram s'en est un, changent vraiment le rapport au voyage? Parce qu'on est, à Paris, dans un bureau, il fait gris, tout d'un coup, il y a des potes qui sont partis et qui sont très loin. Et là, ils balancent leurs photos.
Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet. J'ai lu récemment un article qui explique qu'à cause d'Instagram, il y a eu un flot de touristes qui est arrivé dans une ville de Californie, Lake Elsinore. Alors, désolé pour mon accent français. Et il y a donc 100 000 visiteurs qui sont arrivés parce qu'il y avait un magnifique champ de coquelicots qui venait d'arriver à éclosion. Et ça a complètement bouleversé l'économie locale. Ça a été catastrophique. Il y a même un contre-hashtag qui est sorti, qui était horrible person, pour pointer du doigt ces mauvais touristes.
Et les autorités locales, je crois, ont interdit d'accès une partie de la colline sur laquelle il y avait le coquelicot.
Dans un autre genre, hein, c'est pas que les vacances au soleil qui font envie sur Instagram. Ça va être aussi, par exemple, Tchernobyl. Il y a eu la série Tchernobyl. Il y a plein de gens qui ont décidé d'y aller. Et en fait, ça a créé un phénomène de masse parce que les gens sont sur Instagram et postent des photos et tout le monde a envie de poster sa photo à Tchernobyl. Mais oui, bien sûr, je pense que ça change notre rapport aux choses. Et de toute manière, on le voit. Enfin, je veux dire, faut pas se dire maintenant qu'il y a la perche à selfie, les gens regardent beaucoup moins. À l'époque, ça fait longtemps qu'on fait des photos, etc. Mais je trouve que c'est quand même fascinant d'être quelque part.
J'ai une anecdote à ce sujet dans un livre de donc Simone de Beauvoir où elle est avec Jean-Paul Sartre en Italie. Ils se rendent tout près de Naples et elle se plaint, elle critique les touristes américains qui arrivent au pied du volcan et qui montent, prennent des photos et repartent. Donc déjà, on est à la fin des années 30 à ce moment-là. Donc il y a toujours un rapport à la foule, à l'effet de la foule.
Et l'image.
À l'image. Et donc, avec ces images et les réseaux sociaux, le lointain qui était toujours très lointain, hein, dans les atlas, dans les bibliothèques, les sociétés de géographie, il est devenu au cœur de nos vies. Et j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être essayer de chercher à reconstruire cet ailleurs, à lui donner de nouvelles formes. Ce qui est lointain, ça peut aussi commencer, et ça, sans déconner, à quelques kilomètres de chez soi. Tout comme on peut retrouver un chez soi à des dizaines de milliers de kilomètres si on en fait l'expérience de bars standardisés, de restos standardisés, internationaux, de centres de congrès, de halls d'aéroports. Et donc, je pense qu'on peut essayer d'essayer de reconstruire un ailleurs écologique.
Donc, il n'y a rien qui rachète le voyage, là, si je comprends bien.
C'est pas minute. Non, bah, je rachète 1000 fois l'idée du voyage, mais de donner celui-ci à peut-être d'autres formes, d'autres envies, d'autres explorations que la consommation.
Il y a quand même certaines personnes qui défendent des formes plus écologiques de voyage, alors qui coûtent aussi très cher, donc c'est le problème, mais qui vont montrer que, par exemple... faire du tourisme dans la forêt amazonienne ou dans certaines forêts africaines où on va protéger les singes, ça va permettre par ailleurs de protéger ces espaces naturels plutôt que de développer d'autres activités industrielles.
Je suis un peu sceptique sur ce genre de choses, mais pourquoi pas.
Donc c'est ça qu'il faudrait trouver finalement, c'est peut-être un petit bout de jardin, s'installer au calme, si ce n'est aller voir les gorilles très loin, peut-être regarder ce qu'il y a très près de chez soi.
Mais toujours avec une petite bière.
Ouais, toujours avec une petite bière, mais peut-être sans barbecue, sans côtelettes grillées et autres régressions virilo-cromagnonesques. Je crois qu'il faut qu'on en parle au prochain épisode, évidemment. Merci Sarah.
Merci Antoine.
Merci Sonia.
Merci à vous deux.
Salut.
À bientôt.